Alors, c'est juste un peu ce que nous allons voir ce soir. Donc, le texte de ce soir, c'est, on va voir, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Et le thème principal, c'est l'autorité de Jésus et la compassion qu'il a pour ses disciples. Alors, ça, c'est un texte qui est assez court, mais qui il y a pas mal de choses que nous allons voir. Alors, je vous propose peut-être de lire déjà dans Marc, au chapitre 6, verset 45, on s'était arrêté juste avant, c'était Benjamin la dernière fois, où on s'était arrêté sur la multiplication des pains. Alors, on va lire ce texte dans Marc, chapitre 6, verset 45 à 52, si quelqu'un veut bien le lire.
Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Mais vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient rien, pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci.
Merci. Alors nous avons ce texte aussi qui se trouve dans Matthieu. Dans Matthieu, on a le même texte au chapitre 14, versets 22 à 33. Il est aussi dans l'évangile de Jean. Et c'est vrai que nous aurions pu parler d'un autre sujet. Par exemple, si on lit dans Matthieu, on voit Matthieu va beaucoup plus loin. Il parle aussi de Pierre, ce qu'il a fait quand il a enjambé, qu'il a marché aussi sur les eaux avec Jésus. Mais là, nous sommes dans Marc, et Marc veut toujours appuyer sur l'autorité de Jésus et la compassion qu'il a pour ses disciples. Alors, on va voir, là, comme c'est pas trop long ce texte, on va voir verset par verset. Alors, le verset 45, il est dit « aussitôt après ». Aussitôt après, c'est aussitôt après la multiplication des pains. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à se rendre vers Bethsaïda, alors en passant par le lac. Alors, ce qu'on peut s'apercevoir déjà, c'est que Jésus, ici, on voit l'autorité qu'il a déjà sur ses disciples. Il leur dit de passer de l'autre côté, tout en renvoyant, bien sûr, la foule qui venait d'être nourrie. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, certainement Jésus préparait déjà une nouvelle situation. Là, il y avait eu la multiplication de pains, il renvoie ses disciples, la foule aussi. Donc, il va se passer encore quelque chose, surtout que Jésus sait très bien que quand il va les envoyer sur la mer, sur le lac, eh bien, ça va être compliqué. Alors, au verset 46, il est dit « Après avoir renvoyé ses disciples et la foule, Jésus alla sur la montagne pour prier. » Et là, je me disais, on voit souvent dans la Bible que Jésus prend du temps pour aller prier. Il sait toujours, on voit, avant de faire quoi que ce soit, il prend vraiment un temps, il a vraiment cette notion de vraiment s'en remettre auprès du Père. Donc alors, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'il a dit dans sa prière, mais on peut imaginer la prière du Seigneur. Il a dû dire, mon Dieu, mon Père, tu vois mes disciples, par où ils vont passer, qu'est-ce qui va se passer et tout. Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas non plus capituler là-dessus, mais en tout cas, le sens de la prière du Seigneur, c'était toujours dans le sens de l'amour, que vraiment les disciples soient gardés. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe au verset 47 il est dit, bon, on peut le lire, verset 47, « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. » Alors, la nuit tombe, les disciples sont au milieu de la mer. Il y a, c'est vrai, il y a une certaine tension. Jésus n'est pas avec eux. Peut-être qu'ils se sentent un peu aussi presque abandonnés. Ils sont dans une situation inconfortable. Ils ont beaucoup du mal à ramer car le vent, il est contraire. Vous savez, moi, ça m'est arrivé de faire du vélo et je vous avoue, j'ai rencontré des fois du vent quand je devais pédaler face au vent. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, c'est compliqué. Peut-être même pour ceux qui nagent, je ne sais pas, si vous avez essayé de remonter un courant, quand le courant est en sens contraire, là aussi c'est assez compliqué. Alors c'est vrai que peut-être qu'ils n'étaient pas en danger, hein, comme dans Marc au chapitre 4, verset 37, où on sait que là il y avait la tempête, ils étaient peut-être en danger, mais là il y a bien un problème, c'est qu'ils ne peuvent plus avancer et ils s'épuisent, ils se fatiguent. Et j'étais en train de penser que parfois, nous-mêmes, ça nous arrive aussi avoir du mal à avancer. On peut être aussi, comme les disciples, on peut s'épuiser, fatiguer, on est vraiment en train de vouloir avancer, mais on est dans le sens contraire. Vous savez, être chrétien aujourd'hui, je crois que c'est aussi difficile parce que le monde part dans un sens, mais le chrétien, il est dans un autre sens. On est à contre-courant aussi de ce monde. Donc, ce n'est pas évident et on peut aussi nous-mêmes se fatiguer et s'épuiser. Alors, quand Jésus voit cela, bien, il éprouve encore là de la compassion, même si le texte ne le dit pas ouvertement. Jésus a choisi en faveur de ses disciples et de les sortir de cette épreuve qui était démoralisante. Alors, je crois que puissions-nous aussi comprendre la compassion que Jésus il a pour nous, quand il nous voit aussi en difficulté. Là, il voit ses disciples qui sont en difficulté. Et je me dis que le Seigneur, il nous voit aussi quand nous passons nous-mêmes par des moments de difficulté. Et alors, c'est vrai que Jésus, la compassion, Jésus nous voit, il intervient, mais c'est vrai que parfois, nous ne le voyons pas comme les disciples qui ne l'ont pas venu, ils l'ont pas vu arriver. Et parfois, nous aussi, on peut être parfois aveugle en ne voyant pas Jésus qu'il est près de nous, même quand nous traversons des difficultés. Le verset 48, il est dit, Jésus les vit, c'était la quatrième heure de la nuit. Alors, la quatrième heure de la nuit, j'ai regardé, ça, c'est entre 3h et 6h du matin. Alors, imaginez un peu la situation, mettons-nous un peu dans le contexte. Hein. 3h du matin, hein, la fatigue, le découragement, ils ne peuvent même plus ramer, ils sont fatigués, l'angoisse peut-être elle est là, il y a le froid aussi. Que va faire Jésus? Eh bien, il va vers eux, marchant sur les eaux. Et là, on comprend que c'est un miracle, et plus précisément d'un miracle de son autorité absolue sur la nature. Jésus marche sur l'eau. C'est pas commun. Hein? Moi, j'essaye de marcher sur... Enfin, j'ai jamais essayé de marcher sur l'eau, mais enfin, à chaque fois que j'ai marché dans l'eau, j'ai coulé, de toute façon. Hein? Heureusement que je savais nager. Mais bon, même en sachant nager, on peut se noyer aussi. Hein? Mais enfin, voilà, Jésus, il marche sur l'eau. On voit vraiment là aussi l'autorité de Jésus sur les éléments, sur la nature. Et il y a quand même quelque chose qui ressort de ce passage-là. Marc rapporte par rapport aux autres évangiles, bien Marc rajoute une indication supplémentaire. Il dit à la fin du verset 48, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, voulant les dépasser. Voulant les dépasser. Alors pourquoi il voulait les dépasser? Alors certains auteurs pensent que Marc veut toujours nous attirer dans une autre direction. Marc, comme souvent, eh bien, il nous enrichit et fait allusion souvent à l'Ancien Testament. quand Dieu se manifeste, par exemple dans Exode au chapitre 33, verset 18, si vous voulez bien le prendre, on va voir que Dieu se manifeste dans Exode chapitre 33, verset 18 et plus même. On peut le lire peut-être jusqu'au verset 23. Exode 33, verset 18, si quelqu'un veut bien le lire.
Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. » Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. »
Voilà, merci. Alors c'est un texte qui est quand même important. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu répond au verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Verset 22, quand ma gloire passera, et là on voit le même verbe, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et un peu plus loin, au verset 23, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Et cette bonté de l'Éternel se produit dans la suite du texte, dans Exode 34, verset 5 à 6, si vous voulez bien le prendre aussi. Exode 34, verset 5 à 6.
L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. »
Merci. Alors, en quoi ce texte est-il clair pour nous ce soir? Marc suggère qu'une révélation de Dieu lui-même est en train de se produire au milieu du lac. Jésus incarne et manifeste la gloire divine. Prenez maintenant dans Job au chapitre 9, verset 5, chapitre 9, verset 5 à 8, si on veut bien le lire aussi. Et on va faire un rapprochement après. Job, chapitre 5, verset 9. Chapitre 9, pardon, verset 5 à 8, si vous voulez bien le lire.
Il transporte soudain les montagnes. Il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer.
Merci. Il est dit, lui qui déplace les montagnes, il fait trembler la terre. Verset 7, il commande au soleil de ne pas paraître. Et verset 8, il marche sur les hauteurs de la mer. Il marche sur les hauteurs de la mer. Verset 11, qu'on n'a pas lu, mais on va lire. Voici, il passe près de moi. Intéressant, non? Verset 10, il fait des choses belles, grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Mais je veux revenir au verset 11. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Puis il s'en va et je ne l'aperçois pas. C'est le même verbe que Marc, chapitre 6, verset 48. Il voulait les dépasser. Il s'éloigne. Le point principal de Job et de Marc, c'est l'identité de Jésus. C'est l'identité de Jésus. En Job 9, il marche sur la hauteur de la mer. Voilà qui est spectaculaire. Et à Marc, chapitre 6, verset 48, c'est Jésus qui marche sur l'eau et qui veut dépasser ou passer à côté des disciples. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Bien, nous pouvons conclure que Dieu est supérieur aux humains. Donc, nous devons conclure que Jésus n'est pas un simple homme. S'il peut marcher sur la mer, c'est qu'il est pleinement Dieu. Et on peut faire ce parallèle avec Marc, chapitre 6, c'est verset 45 à 52, et avec Exode et Job. Il est pleinement Dieu, Jésus est pleinement Dieu. Et Marc ajoute que Jésus voulait dépasser les disciples. C'est pour souligner le rapport avec Job 9 que Jésus est le Dieu qui est décrit en Job 9. Deutéronome chapitre 31, verset 3, si vous voulez bien le prendre. Deutéronome chapitre 31, verset 3.
L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit.
Voilà. Verset 3. C'est le Seigneur votre Dieu lui-même qui marche devant vous. C'est Dieu qui le dit au travers de la bouche de Moïse. Je marcherai devant toi. Le fait de laisser Dieu marcher devant lui, eh bien Moïse a pu voir la consolation, la direction, l'intervention, le soutien de Dieu, de le voir devant. Exode chapitre 13, verset 21, je vous le lis. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et pour les éclairer. La nuée marchait devant. Vous savez, si on met Dieu au même niveau que nous, à notre côté, en le mettant vraiment à côté de nous, eh bien, qu'est-ce qu'il fera ? Qu'est-ce qu'on fera ? Ben, il nous faudra tourner la tête à droite ou à gauche. Ou même si on le met derrière, il faudra se retourner. Mais si Dieu est devant nous, on peut voir ce qu'il fait. Alors, laissons Dieu marcher devant nous, et nous, nous n'avons qu'à le suivre. Laissons-le nous dépasser. Laissons-le devant nous. Nous n'avons qu'à regarder devant, et nous n'avons qu'à regarder à lui. Oui, Jésus veut nous dépasser pour marcher devant nous. Et nous, tout simplement, eh bien, nous n'avons qu'à le suivre, pas à pas. Il est notre guide, comme il a pu guider ce peuple d'Israël, que ce soit par la nuée. Alors, je reviens dans Marc, au chapitre toujours 6, c'est le verset 49-54. Là aussi, quelqu'un peut-être peut relire les versets 49 et 50.
Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. »
Wow. Il y a peut-être là panique à bord. Les disciples croient. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils croient voir un fantôme. C'est-à-dire une personne qui est peut-être morte et qui revient à la vie. Ils se mettent donc à crier. Ils se mettent à crier tous. Tous les disciples le voient et crient. Donc ce n'est pas une hallucination qu'ils ont. Ce n'est pas une hallucination d'une seule personne. Et qu'est-ce qui se passe ? Jésus leur parla. Qu'est-ce qu'il dit ? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Waouh ! Là aussi, combien ça peut faire écho, ces paroles dans notre vie. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est vrai que les disciples ne l'ont pas reconnu. Mais c'est à la voix qu'ils l'ont reconnu. Et je pense que le fait d'entendre simplement Jésus leur dire « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur », ça a dû mettre du baume dans leur cœur, de se dire « Waouh, Jésus est là ». Alors, c'est vrai que Jésus leur dit « N'ayez pas peur ». Mais pourquoi ne pas avoir peur dans cette situation ? Il y a des situations, c'est vrai, qu'on peut avoir peur. Pourquoi ne pas avoir peur ? Parce que c'est tout simplement, c'est Jésus. Il le dit, c'est moi. Il veut rappeler à ses disciples qu'il est le Créateur de toutes choses, qu'il est Dieu. Jésus est présent même la nuit, même si le vent souffle fort dans ta vie, il est là. Et c'est réconfortant de le savoir. Et je vous assure que pour moi, c'est réconfortant de le savoir. que même si c'est la nuit, même dans les difficultés, c'est pas facile, mais il est là. Ça nous fait du bien de savoir qu'il est là. Vous savez, en préparant cette étude, ce mot, quand je lisais « rassurez-vous, c'est moi », eh bien ce mot « moi » m'a fait du bien. Parce que Jésus, il est présent. Et Jésus nous rappelle ce soir qu'il est là même dans les difficultés. Et nous ne devons pas, chers frères et sœurs, vraiment ne pas l'oublier. Chacun peut peut-être passer par des moments difficiles, mais il nous le dit aujourd'hui à nous aussi, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Je vous assure que ça m'a fait vraiment du bien, ça me fait encore du bien même, encore maintenant, de me dire, voilà, Jésus, il est là. Dans nos luttes, il est là, dans nos craintes, il est là quand on est fatigué pour avancer, quand on rame, qu'on ne peut plus ramer, il est là. Peut-être que nous sommes comme les disciples en ce moment, la peur de ne pas arriver, la peur, hein, quand on écoute les infos de ce monde, on peut paniquer, peut-être qu'on ne crie pas, mais que de pensées parfois négatives, parce que ce sont souvent nos pensées, et justement on en parlait avec André hier, justement, ce qui nous sépare, ce sont nos mauvaises pensées, tout ce qui se passe dans notre tête. Hein? Oui, que de pensées parfois négatives, que de craintes. Et je me dis, des fois, ouais, je ne dois pas m'inquiéter. Je crois qu'il y a quand même de bonnes inquiétudes, des fois aussi, hein? Parce que c'est facile, des fois, pas s'inquiéter. Bon. Parfois, on s'inquiète, hein, un enfant qui est malade, membre de la famille, etc. On peut s'inquiéter. Il y a des inquiétudes qui sont parfois bonnes. Mais comme il est bon d'entendre le Seigneur nous dire, c'est moi, n'ayez pas peur. Déjà, dans Marc, au chapitre 4, verset 40, Jésus leur avait déjà dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il a dit. Ce mot « c'est moi » a résonné souvent dans ma tête en préparant, je vous assure, cette étude. Et j'aurais besoin, je me suis souligné ce passage. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Peut-être que je reviens trop souvent sur ce verset, mais on en a besoin de l'entendre. On a besoin. C'est moi. Alors, juste un rappel dans Exode au chapitre 3, verset 14. L'Éternel appelle Moïse à faire sortir le peuple d'Égypte, et Moïse dit, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Et au verset 14, Dieu dit, « Je suis celui qui suis. » Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras. Je suis celui qui suis. Alors, dans cette explication de son nom, Dieu, on voit qu'il utilise la première personne du singulier, mettant l'accent sur lui-même, même pour se révéler comme le Dieu toujours présent. Le nom, je suis celui qui suis. Eh bien, on peut faire là un rapprochement. Même si en hébreu, c'est pas traduit à peu près pareil, mais ça veut dire la même chose. Ce « je suis » est aussi « c'est moi ». Donc, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. On peut faire ce parallèle vraiment du Nouveau Testament à l'Ancien Testament. « Je suis ». C'est moi. Alors, verset 51. Une autre étape, là. Donc, on peut lire le verset 51. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfiés et remplis d'étonnement. Donc, Jésus monte dans la barque. Et au moment où Jésus monte dans la barque, qu'est-ce qui se passe? Le vent cesse. Le vent s'arrête. Voilà un miracle. Ce vent était contraire et c'est vrai qu'il est malmené. À la présence de Jésus, le vent s'arrête. Il nous arrive parfois d'être malmené. Il m'arrive parfois d'être découragé. Il m'arrive parfois d'être anxieux, fatigué, épuisé. Peut-être que nous ne sommes pas sur la mer ou sur un lac. Nous sommes sur la terre. Peut-être en vivant des inquiétudes. Jésus ce soir nous dit, il me dit, il te dit, n'aie pas peur, rassure-toi, c'est moi. Laisse-le monter dans ta barque, laisse-le monter dans ta vie. Et le vent, tes peurs, tes inquiétudes vont cesser vraiment à te perturber. Je ne dis pas que ça va les enlever, ça ne va peut-être pas les enlever, mais ça va te donner une autre façon de voir les choses. Tu les auras. Dieu n'a pas dit qu'il nous enlèvera toute facilité, toute inquiétude, non. Mais il a dit, je vous donne ma paix. Et ça, c'est important. Quand on a Jésus dans sa vie, malgré les difficultés, eh bien, Dieu nous donne sa paix. Et on peut l'expérimenter. Même si tu pleures, même si tu cries, Dieu, il est là. Et ça fait du bien de le savoir. Ça fait du bien de le dire. Ça fait du bien de l'entendre. Verset 52. Si quelqu'un veut le lire.
Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci.
Merci. Oui, ils n'avaient pas compris que Jésus était le divin berger et qu'il prenait soin de ses brebis. Ils n'avaient pas compris. En fin de compte, les disciples n'arrivaient pas à intégrer la vraie identité divine de Jésus. Pourtant, l'après-midi même, enfin la veille, hein, ils avaient vu le miracle de la multiplication des pains. Ils n'ont toujours pas compris qui est vraiment Jésus. Marc n'a pas encore conclu avec les disciples. Il dit que leur cœur était endurci, leur intelligence était aveuglée. Jésus même est obligé de leur rappeler. Regardez, lisons dans Marc au chapitre 8, versets 17 à 21. Marc 8, versets 17 à 21. Si quelqu'un veut bien le lire. Marc chapitre 8, verset 17.
Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et dit, ne comprenez-vous pas encore?
Oui, merci. Vous n'avez point de mémoire. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Oh, combien de fois nous-mêmes, si on arriverait à comprendre ce que Jésus est, eh bien, des choses dans notre vie changeraient. Tous les enseignements que nous avons vus depuis que nous avons commencé l'évangile de Marc, même depuis plusieurs années qu'on étudie la Bible, qu'on lit la Bible, est-ce que on n'a pas de mémoire, nous aussi? Est-ce que nous réalisons qui est Jésus? On devrait nous être apaisés de savoir que nous avons un tel Seigneur, un tel Sauveur. Et on devrait être apaisés dans des moments de doute, de peur ou d'incrédulité, de savoir qu'il est Dieu et de ne pas être, avoir le cœur endurci. Bon, nous savons que par la suite, les disciples vont bien comprendre et connaître l'identité de Jésus. Mais on peut les comprendre. Mais nous, depuis le temps, que nous avons l'Ancien, le Nouveau Testament, que nous avons la parole de Dieu. Oh, je me dis parfois, je suis pire que les disciples. Je suis lent à comprendre. Je suis lent à vraiment réaliser que qui est Jésus-Christ. Ce que Marc nous invite à reconnaître, c'est que les disciples, bien qu'étant proches de Jésus, se comportent comme des adversaires, non pas en s'opposant à Jésus, non, non, mais en refusant d'accepter ce que Jésus, il était. Ils n'avaient pas encore compris. Dans Marc chapitre 4, verset 41, on a vu que les disciples se posaient la question, « Qui est donc cet homme que même le vent et la mer lui obéissent ?» Ils n'avaient toujours pas compris. Ils se posent toujours la question. Est-ce que nous nous posons encore la question, qui est Jésus-Christ? Alors, que retenir de Marc, chapitre 6, versets 45 à 52, ce que nous avons lu? Que retenir? Eh bien, c'est que Jésus expose et possède l'autorité divine sur la nature. Seul le Créateur du vent est capable d'agir ainsi. Rappelez-vous, hein, Job chapitre 9, Job déclare que Dieu seul marche sur la mer. Il a dit, Dieu seul marche sur la mer. Donc Jésus n'est pas un simple homme, il a marché sur la mer. Il est pleinement Dieu. Jésus forme ses disciples et se révèle à eux, même s'ils mettent du temps à comprendre. Oh, et combien Dieu a de la patience envers nous encore, comme il avait de la patience avec ses disciples, lent à comprendre, ayant peu de mémoire. Oh, je me dis que la patience qu'il avait, Jésus, avec ses disciples, eh bien, il a encore aujourd'hui avec nous. Et surtout avec moi. Oui, là on voit l'amour de Dieu qui est sans faille. Malgré leur faiblesse, eh bien, Dieu les aime. Et Dieu nous aime, malgré nos manquements, malgré nos fautes. Le diable va nous faire croire que, waouh, t'es pas capable. Ouais, t'es nul. Toi aussi, t'es lent à comprendre. Oh, mais Dieu nous aime. L'amour de Dieu est insondable. C'est un exemple pour nous. Quel est donc le message à retenir? Celui qui marche sur les eaux nous montre qu'il est vraiment. Alors, mettons de côté tout endurcissement et ouvrons notre cœur à Jésus-Christ, il est Dieu. Si Jésus contrôle même la nature, si Jésus contrôle le vent, si Jésus contrôle la mer, la multiplication des pains, s'il contrôle la tempête, etc., le tonnerre, à combien plus forte raison nous pouvons lui confier nos vies, lui qui contrôle tout, et laissons-le monter dans notre barque, parce que lui, il veut monter dans notre barque. Vous savez, la mer est souvent associée au chaos, hein, avec les vents et ses vagues. Alors, comment on pourrait compléter cette phrase? Eh bien, il me semble que quand on remet toutes choses entre les mains de Jésus, on peut entamer une certaine sérénité. Si Jésus peut contrôler la nature, croyez-vous qu'il ne peut pas contrôler nos vies? lui qui parle. Et le vent s'arrête. À nous de veiller à nos cœurs de ne pas nous endurcir. Parce que c'est nous qui nous endurcissons. Parce que Dieu, lui, il est là pour nous instruire, pour que nous restions éveillés, que nous puissions avoir de la mémoire, de nous rappeler tout ce qu'il a fait, toutes les bénédictions. Compte les bienfaits de Dieu, la cantique nous dit. Et tu verras comment le nombre en est grand. Mais ça, on oublie. On reste souvent dans nos défaites. Et pourtant, à plusieurs, je crois que chacun a son cheminement. Hein. Moi, je peux dire combien de fois Dieu m'a gardé de la mort. Je crois que je l'avais déjà dit. Mais je suis sûr que chacun de vous ici, vous pouvez dire, oui, moi aussi, ce jour-là, il m'a gardé parce que j'étais pas loin de mourir. J'étais dans le danger et Jésus m'a sorti du danger. Il est là. Il nous garde. Alors restons vraiment, veillons à ce que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Mais rien, vous savez, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il est souverain. Pierre, vous savez, est un exemple. Il a demandé à Jésus, on le voit là, dans le, pas dans Marc, mais dans Matthieu, il a demandé à Jésus, « Si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. » Pierre a eu vraiment la foi. Il est sorti de la barque. Il a fait ce pas de foi. Pourtant, il fallait le pas de foi, parce que sortir de la barque, et bon, Jésus marchait sur l'eau, mais... lui, c'était pas évident qu'il marche, mais il a eu ce pas de foi. Pierre a eu la foi, il est sorti de la barque, les autres sont restés dans la stupeur. Ils n'ont pas eu confiance. David a dit, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh, je me dis que Dieu renouvelle vraiment notre intelligence. On a besoin d'être renouvelé chaque jour. On a besoin de puiser la richesse, les promesses que nous avons dans la parole de Dieu. Jésus veut nous aider à ramer. Alors, à ramer, dans le sens de d'avancer, hein, c'est pas nous aider à ramer, comme on dit dans le jargon... vraiment, tu sais, je suis en train de ramer, ça veut dire que je... Hein. Non, Jésus, lui, veut nous aider à avancer. Le point de départ est de le reconnaître dans toute sa puissance. De se nourrir de lui, apprendre à le connaître, de le laisser devant nous pour qu'on puisse le voir. Le laisser nous dépasser et nous n'avons qu'à le suivre. J'ai bien aimé ce passage et qu'il voulait les dépasser. Oh, laissons-le, laissons Dieu nous dépasser. Et nous n'avons qu'à le suivre. J'ai beaucoup aimé ce que Marc dit là. Vous savez, les disciples ne s'attendaient pas à voir Jésus arriver de cette manière étonnante. Hein, venant le soir, la nuit, c'était, n'oublions pas. Et, ouais, c'est un fantôme. Ils ne s'attendaient pas à le voir arriver comme ça. Jésus veut nous surprendre aussi. Rien ne peut le diminuer. Laissons-le qu'il nous surprenne. Laissons-le vraiment agir dans notre vie. Ne gaspillons pas, vous savez, nos épreuves. L'épreuve est un lieu privilégié de voir la grandeur de Dieu. Joël, elle m'a dit il y a quelques jours, elle me fait, l'épreuve qui nous arrive m'a fait comprendre combien tu m'aimes. J'ai pas fait attention sur le moment, mais après je me l'ai remis dans la tête. L'épreuve m'a fait comprendre que tu m'aimes. Vous savez, l'épreuve, quand on passe par l'épreuve, eh bien ça doit nous faire comprendre combien Dieu nous aime. Parce que l'épreuve Il est pas là pour, ils sont pas là pour nous punir ou nous châtier ou quoi que ce soit. L'épreuve, elle est là pour nous faire grandir, pour nous montrer que nous pouvons compter sur le Seigneur. Bien sûr, on n'aime pas les épreuves. On ne les aime pas. Pourtant, elles sont là, elles nous apprennent. Tirons profit et mettons-nous en mode d'écoute de ce que Dieu veut nous transmettre. Or, je ne sais pas, la prière, c'est vrai que Jésus a faite avant ce récit, quand il est parti sur la montagne. Je pense qu'il a dû prier en faveur vraiment de ses disciples. Soyons patients en tant que lecteurs. Nous savons que Jésus intercède pour nous. Romains, chapitre 8, verset 34. Il est dit, il est notre avocat. Nous pouvons le lire peut-être. Tiens, Romains, chapitre 34. Et peut-être quelqu'un peut prendre 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Alors, Romains, chapitre 8, verset 34. Et 1 Jean, chapitre 2, verset 1, si quelqu'un veut le lire. Romains 8, 34.
Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
Voilà. Il intercède pour nous. Nous prions les uns pour les autres. On sait que c'est important de prier. Mais Dieu, Jésus lui-même, intercède pour nous. On peut lire 1 Jean chapitre 2, verset 1. Voilà, Christ est notre avocat. Nous sommes, vous savez, en 2025, hein, après Jésus-Christ, nous sommes bénéficiaires de l'intercession de Jésus encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Jésus est notre avocat. Il intercède pour nous. On sait que c'est important de prier. Mais quelle joie de savoir que Jésus intercède pour nous. À chaque situation, et avant chaque situation, Jésus allait prier. Lui, il a estimé le temps précieux de la prière. Est-ce que nous, c'est la même chose? Est-ce qu'on estime quand nous prions que c'est un temps précieux de prier? Parfois, on minimise la prière. Oui, on parle qu'il faut prier. Mais combien de temps je passe à prier? Je prie quand ça ne va pas. Oh Seigneur, aide-moi. Hein? Garde-moi. Mais la prière fait partie aussi de la louange, de l'adoration, de la gratitude, de la reconnaissance envers Dieu, envers ce qu'il fait. Oui, prenons comme Jésus, ne minimisons pas la prière. Alors, à plus forte raison, nous qui sommes sujets à la faiblesse et à l'endurcissement du cœur, nous ne regretterons jamais de prendre du temps dans la communion fraternelle, dans la communion avec le Seigneur, d'une relation importante et dans la prière. En sachant que Dieu entend les prières et qu'il répond quand c'est selon sa volonté. Oh, ce n'est pas toujours immédiat quand Dieu répond. Non, aucune prière n'est oubliée. Aucune prière est perdue. Alors, prions comme Jésus l'a fait. Prions comme nous faisons pour les uns, pour les autres, pour les malades, pour que Dieu touche le cœur d'un tel ou d'une personne bien aimée. Prions. Et si Jésus a pu marcher sur l'eau, eh bien, il peut m'aider dans mes conflits. Parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Quelle joie. Quelle joie de savoir que nous avons un tel Seigneur, un tel souverain qui est là constamment, qui prend soin de nous, qui prie pour nous. Alors, je pense que ce texte est là pour nous rappeler que le Seigneur a autorité sur toute chose et qu'il veut nous faire grandir, qu'il est là avec nous, et de ne pas l'oublier. Ne soyons pas oublieux, mais rappelons-nous que Jésus, il est Dieu, que nous avons un merveilleux Sauveur. Voilà, ça tombe pile poil, il est 8h. On va peut-être terminer, ou peut-être quelqu'un, on a 2 minutes encore, peut-être quelqu'un voudrait rajouter quelque chose par rapport... C'est vrai qu'on pourrait dire d'autres choses, mais il faut toujours choisir.
Oui. Dans Jean 18, c'est très fort justement quand il vient de l'arrêter. Quand il vient de l'arrêter.
Oui, dans le chapitre 18.
Oui, le chapitre 18 de Jean.
Verset 5.
Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Et lui répondirent : Jésus de Nazareth. Jésus leur dit : Je suis. Ouais. Littéralement, c'est ça. Je suis. C'est moi. Je suis. Et lorsque Jésus leur dit : Je suis, ils reculèrent et tombèrent par terre. Mm. Donc, on voit vraiment la réaction, parce qu'ils ont bien compris que.
Oui, par rapport à ce que Dieu avait dit : Je suis.
Il y a peut-être même quelque chose de miraculeux parce qu'ils sont peut-être 200. Alors, de 200 personnes qui tombent à la renverse, c'est la puissance de Dieu. Mais dans le grec, alors je peux me tromper, mais quand il y a je suis, donc c'est le pronom c'est ego et le verbe c'est emi. Et en fait, le verbe dans le grec, il n'y a pas forcément besoin de mettre le je en fait, parce que la forme du verbe permet de savoir comment il est conjugué. Et quand c'est rajouté, soit c'est parce que le contexte oblige de mettre le « je », soit c'est pour insister, pour mettre une emphase. Donc effectivement, quand Marc met vraiment ça, mais « ego emi, je suis », c'est vraiment qu'il est en train d'appuyer sur le passage. Quoi. Et c'est le cas dans Marc aussi, ce que tu as expliqué tout à l'heure.
Ah oui,
c'est...
C'est vrai, ce parallèle aussi, là, avec... Ancien et le Nouveau Testament est toujours enrichissant.
J'imagine la réaction des 200 personnes qui étaient là, qu'ils ont entendu « Je suis ». Parce que « Je suis », ça a été le nom de Dieu et les Juifs, personne ne pouvait s'intituler « Je suis ». J'imagine la réaction qu'a eu à ce moment avec Jésus.
Comme quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un passage où on aurait pu le prendre aussi. Ouais. Voilà, écoutez, on va peut-être terminer par la prière. Oui, tu veux terminer ?
Père éternel, on veut te dire merci pour ces temps qu'on a pu passer à être enseignés, à pouvoir lire ta parole, Seigneur. Et vraiment, on veut te dire merci parce que oui, on a un grand Sauveur et un grand Seigneur qui est maître de la création. C'est toi qui as tout créé, Seigneur, et tu l'as démontré en marchant sur les eaux, en commandant aux éléments, Seigneur. Et vraiment, on veut repartir en ayant cette confiance en toi, qu'on peut venir à toi et que tu nous dis « C'est moi, n'ayez pas peur, Seigneur ». Et vraiment, je te prie que nous puissions avoir cette paix en nous, Seigneur. Et comme Georges voilà, nous l'a bien montré, que nous puissions nous réfugier en toi, que nous puissions avoir cette confiance que tu es présent avec nous, au milieu de nous, et que c'est toi qui marches devant nous, Seigneur. Qui est le grand je suis, et Père, on est vraiment bénis de te connaître, et vraiment je te prie que nous puissions avoir cette pensée tout au long de nos vies, Seigneur. Amen. En ton nom, Amen.
Amen. Amen.